Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Il y a tous les péchés dans l'histoire que je vais vous raconter. De la perversité, de l'avidité et même le pire des péchés. La politique, c'est une affaire extraordinaire, l'affaire de Canson. L'histoire d'une vieille dame, lointaine héritière des papiers Canson, qui meurt subrepticement et qui se fait piquer son héritage avec des complicités haut placées. Tellement haut placées d'ailleurs qu'il ne leur arrivera rien. Vous allez voir, c'est gratiné. Pour débriefer cette histoire, je ferai appel à Maître Edgar Vicencini du barreau de Paris, avocat de la famille de la victime. J'ai écrit cette histoire avec Nicolas Loupien, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Vous connaissez le papier Canson, je suppose? Et pourquoi s'appelle-t-il le papier Canson, d'après vous? Eh bien, tout simplement, parce qu'il appartenait à la famille de Canson, riche famille de papetiers. En 1958, l'héritier de l'Empire Canson, Jacques Barrou de la Lombardière de Canson, lui-même riche antiquaire à Paris, décède en laissant derrière lui une fabuleuse collection de tableaux. Rembrandt, Van Dyck, Murillo, Le Titien, Watteau. Et est-ce que vous saviez pour combien il y en avait? Ah oui, oui. Au bas mot, 300 millions de francs. Fichtre diable! En euros constants, c'est-à-dire en tenant compte de l'inflation, ça représenterait aujourd'hui la somme rondelette de 547 millions d'euros. Plus d'un demi-milliard. Waouh! Et qui hérite de cette fortune? Eh bien, les deux filles du monsieur. Jeanne Barrou de la Lombardière de Canson, épouse Deschamps, qui vit à Genève en Suisse, et sa sœur Suzanne, qui n'étant pas mariée, a conservé le nom à rallonge, Suzanne Barrou de la Lombardière de Canson. Eh bien voilà deux jeunes femmes à l'abri du besoin. Près de 30 ans plus tard, en avril 1987, Jeanne Deschamps, la Suisse, apprend par l'un de ses amis antiquaires que sa sœur Suzanne est morte.
Vous n'étiez pas au courant? Figurez-vous qu'elle est décédée il y a 7 mois.
Et vous-même, comment l'avez-vous appris, mon ami?
Eh bien, quand j'ai vu l'un des tableaux de sa collection, le portrait d'un gentilhomme sévillant de Murillo, vous savez, il était en vente chez Christie's. Et savez-vous qui l'a acheté? Le musée du Louvre. Alors j'ai voulu savoir pourquoi elle l'avait mise en vente et dans quelles conditions. Et c'est là que j'ai appris qu'elle était morte.
Et savez-vous, mon ami, où elle a été enterrée?
Écoutez, d'après ce que je sais, elle n'a pas été enterrée, elle a été incinérée.
Dans ce que cet ami antiquaire vient de raconter à Jeanne Deschamps, il y a tout un tas de signaux d'alerte. D'abord, il y a le fait que le tableau, le Murillo, a été acheté par le Louvre. Enfin, c'est absolument incroyable. Notre père a toujours considéré les hommes du Louvre comme des malfrats. S'il apprenait ça, le pauvre. Autre sujet d'étonnement, le fait que Suzanne ait été incinérée. Enfin, chez les Barrou de la Lombardière de Canson, voyez-vous, ça ne se fait pas, normalement. Cela dit, il y a deux ou trois choses que vous devez savoir et qui peuvent expliquer que Jeanne n'ait pas été prévenue de la mort de sa sœur Suzanne. Elle n'était pas très proche. Elle ne se voyait pas beaucoup. Et pourquoi diable? Eh bien, parce que Suzanne était ce qu'on appelle une grande originale. Eu égard à son milieu, bien sûr. Elle aimait les femmes. Au début, elle avait tenté un mariage de convenance avec un cousin. Et puis, elle avait divorcé et filé le parfait amour avec des greluches. Récemment, elle vivait avec une certaine Joëlle, Joëlle Penel. Et d'après ce qu'on dit, les deux menaient une vie de patachon, de palace en palace sur la Côte d'Azur. Bref, le fait que Jeanne n'ait pas été prévenue de la mort de Suzanne n'est pas non plus si surprenant que ça. En revanche, ce qui est absolument certain, c'est que Suzanne n'avait pas d'enfant. Et donc, qui en toute logique doit hériter de sa fortune? Eh bien Jeanne, sa sœur. Le tableau de Murillo, il est à elle, maintenant. Alors comment s'est-il retrouvé dans une vente aux enchères chez Christie's? Eh bien, c'est ce qu'il nous reste à découvrir. Le 9 juin 1987, Jeanne Deschamps décide de porter plainte. La plainte atterrit sur le bureau du juge Bertrand, à Toulon. Ça tombe bien, c'est un passionné d'art, ça va le changer des affaires de drogue et de vol à main armée. Il décide d'envoyer discrètement les gendarmes à Lavalette du Var, où vit cette Joël, la dernière compagne de Suzanne. Et ils ne vont pas être déçus du voyage. Oh là, c'est une femme effroyablement vulgaire. Hein. Et alors, très désagréable, très désagréable. Savez-vous ce qu'elle disait sur Suzanne avant qu'elle ne décède ? Elle disait, c'est une vieille tante un peu folle. Je l'ai recueillie par charité, par charité. Pensez-vous, quand on sait comment elle l'a traitée, c'est-à-dire, eh bien, elle l'avait enfermée chez elle, elle ne la laissait jamais sortir. Leur villa était toujours fermée. Les gendarmes en sont comme deux ronds de flanc. Ils vont voir aussi d'autres voisins. Je vous jure qu'une fois, j'ai entendu des cris qui venaient de chez elle. La pauvre madame de Cancion, elle criait, c'est trop chaud, tu me fais mal. Son amie Joël l'a maltraitée, je vous le dis, elle l'a maltraitée. Les gendarmes poursuivent leur enquête et ils vont sonner chez la voisine d'en face. Un jour, j'ai pris en stop une femme de ménage qui sortait de chez elle. Elle m'a raconté, figurez-vous, que la vieille, c'est comme ça qu'elle l'appelait, était enfermée dans une pièce et qu'elle passait son temps à taper pour sortir. Elle m'a même dit qu'elle lui donnait rien à manger, jamais. Sauf des crackers et du pain. Moi, sur le moment, vous comprenez, je me suis dit que c'était des médisances, mais maintenant, je le regrette bien. Et elle ne recevait jamais de visite. Jamais. Enfin, si. Si une fois j'ai vu Maître Boissonnier sortir de chez elle, vous savez, l'avocat. Voilà ce que les gendarmes rapportent au juge. Ça n'est qu'un début, mais c'est très prometteur. Au point où il en est, et avant d'aller plus loin, le juge Bertrand décide d'entendre l'antiquaire Celotti, qui a prévenu Jeanne de la mort de sa sœur. J'étais très ami avec Suzanne de Canson, très ami. Dès lors, vous imaginez ma surprise, lorsque j'ai découvert que l'un de ses tableaux, un Murillo que je connaissais très bien, et qu'elle m'avait d'ailleurs proposé récemment de vendre pour elle, se trouvait dans le catalogue des ventes de Christie's, lequel catalogue en attribuait la propriété à une certaine Jeanne Chapuis, décédée en 79. C'est tout cela qui m'a amené à prévenir sa sœur Jeanne. Vous dites que précédemment, elle avait tenté de vendre le tableau de Murillo par votre intermédiaire. Absolument. Et quelques mois avant sa mort. Elle avait besoin de liquidité, sans doute. Vous savez, Suzanne vivait grand train. Hein. Et pourquoi vous ne l'avez pas vendu vous-même? Eh bien, parce qu'elle a changé d'avis. Un jour, elle est venue le récupérer avec deux personnes qui étaient avec elle ce jour-là. Deux personnes, dites-vous. Vous savez de qui il s'agit? Ah oui, oui. Sa compagne, Madame Pénel, et l'avocat Maître Boissonnet. Pour être très honnête avec vous, ce jour-là, moi qui la connaissais bien, j'ai eu du mal à la reconnaître. Elle qui était d'habitude si élégante, si sûre d'elle et si dure en affaires, était totalement négligée, mal habillée, mal coiffée, et totalement absente pendant la conversation. Pour vous dire la vérité, monsieur le juge, j'ai eu l'impression qu'elle était sous influence. Le juge Bertrand sort de cet entretien un peu circonspect. Décidément, cette Joël Pénel et ce Maître Boissonnet ont l'air d'être de drôles de loustiques. Ils méritent qu'on s'intéresse à eux. Et voilà ce que le juge apprend de la bouche des gendarmes qu'il a prié de se rencarder sur les deux oiseaux.
Eh bien, cette Joël Pénel, c'est quelque chose. Alors, officiellement, elle est artiste peintre. Alors, on a vérifié. Elle a vaguement étudié aux Beaux-Arts. Et elle signe des toiles du nom de Candice Candy. Mais d'après ce que nous ont dit les connaisseurs, elle peint comme un pied. En revanche, ça doit être une belle femme parce qu'elle a été Miss Toulon, figurez-vous. À part ça, elle a été mariée avec un marin, et puis avec un autre. Et de quoi a-t-elle vécu toute sa vie, cette dame, puisque vous me dites que ces tableaux n'ont pas grande valeur, si je comprends bien. Alors elle a tenu un bar, dans la vieille ville de Toulon, le Chicago. Mais son mari a tué un client lors d'une rixe, et donc le bar a fermé. Ensuite, elle a été mise en cause dans une affaire de faux tableaux. Elle aurait cherché à fourguer de faux Miro, de faux Balthus et de faux Chagall. Et puis elle s'est faite pincer. Et voilà ce qu'on a pu apprendre sur elle. C'est une sacrée cocotte, hein, monsieur le juge. Pour ce qui concerne Maître Boissonnet, le juge forcément le connaît puisqu'il est avocat et que c'est un notable de Toulon. À ce stade, il pourrait très bien les placer tous les deux en garde à vue. Il préfère attendre encore un peu. Il veut d'abord savoir comment ils se connaissent, ces deux-là. Et là, le juge découvre que la pauvre Suzanne s'est déjà fait gruger il y a quelques années, en 1973, par sa précédente compagne, son amour de toujours, Laurence, Laurence Paul. L'autre l'a plaqué du jour au lendemain, et elle s'est barrée en Suisse, avec une partie des tableaux, la coquine. Et c'est là qu'entre en scène Maître Boissonnet. C'est lui, il a mis un peu de temps, mais qui à l'époque a récupéré les tableaux. Et du coup, il est devenu son héros. Et comme en plus il était catholique et qu'il allait à la messe tous les dimanches, elle l'adorait, Suzanne. Et c'est lui, monsieur le juge. C'est Maître Boissonnet qui, quelque temps plus tard, a présenté Joël Penel à Suzanne. Elle ne s'est pas méfiée puisque ça venait de son avocat adoré. Il lui a dit que c'était une de ses anciennes secrétaires. J'avoue que je ne sais pas si c'est vrai. C'est vrai. Et vous voyez ce qui se dessine dans la tête du juge, et j'espère dans la vôtre. L'histoire d'un avocat qui profite de l'amitié que lui porte une vieille dame, riche et sans héritier, pour détourner son héritage avec l'aide d'une complice. Ça pue, cette histoire. Ça pue. Mais tout cela, il va falloir le prouver. Les gendarmes retrouvent plusieurs femmes de ménage qui ont travaillé pour les deux femmes. Madame Suzanne, elle était enfermée dans sa chambre toute la journée, peu cher. Elle criait, elle tapait sur la porte. Et Madame de Penel, oui, parce qu'elle s'était rajoutée une particule, hein, Madame de Penel était la seule à pouvoir s'en occuper. Et dans la chambre, Madame Suzanne, elle était toujours dans le noir, toujours. Madame Penel avait enlevé l'ampoule. Mais elle s'en occupait tout de même. Elle faisait sa toilette, par exemple. Pensez-vous, elle la lavait avec du mire et de la javel. De la javel. Et elle lui donnait à manger. À manger, pas trop. Hein. Une fois, je l'ai trouvée en train de manger sa couche. Elle disait, j'ai faim. Et vous n'avez jamais rien dit. Mais c'est qu'on n'était pas trop déclaré. Vous voyez ? On voit. Le juge se dit qu'il commence à avoir suffisamment de biscuits pour lancer un mandat d'amener contre cette Madame Penel et son ami avocat. Il lui reste une dernière chose à vérifier. Le Louvre, le musée du Louvre, dans quelles conditions a-t-il acheté le tableau de Murillo qui a manifestement été détourné de l'héritage de Suzanne ? À un coup de TGV. Et voilà le juge à Paris, au Louvre. La démarche n'est pas officielle, mais il voudrait bien prendre connaissance du dossier d'acquisition du tableau. On le fait poireauter un peu, mais il finit par obtenir des informations bien intéressantes. C'est-à-dire que nous n'avons pas acheté le tableau chez Christie's. Nous l'avons acheté directement par un notaire de Genève qui était en charge de la succession d'une certaine Madame Chapuis. Madame Chapuis. D'accord. Et combien l'avez-vous acheté ? Nous l'avons acheté 5 millions d'euros. Et c'était son prix ? Honnêtement,
Il valait probablement le double. Il reste maintenant à découvrir qui était cette Madame Chapuis et dans quelles conditions un tableau qui ne lui appartenait pas s'est retrouvé dans les actifs de sa succession. Le juge n'a pas à gratter longtemps pour trouver la réponse. Elle est énorme, la réponse. Elle est énorme. Madame Chapuis était la grand-mère de Joël Pennel. Mais quelle fourbe, celle-là! Quelle fourbe! Vous avez envie d'entendre ses explications? Eh bien, ça tombe bien, le juge aussi. Un matin à 6h, il envoie les gendarmes l'interpeller chez elle. Elle les reçoit en chemise de nuit. Ils avancent dans l'appartement. Un souk. Vous n'avez pas idée. Il y en a partout. Des piles de dossiers, sur les meubles et sur le sol. Et des tableaux. Des tableaux comme dans un musée. Au moins une centaine. Les gendarmes se lancent dans une perquisition. Et dans le portefeuille de cette fourbe de Joël Pennel, ils tombent sur une photo.
Dites-moi, Madame Pennel, qui est cette femme sur la photo, là?
Eh bien, c'est Madame de Canson.
Eh bien, dites donc.
Sur le cliché, on voit une vieille dame squelettique, les joues creusées, le regard vide, les cheveux longs, raides et sales, et même une barbe et de la moustache. Vous vous rendez compte de la perversité de cette morue? Non seulement elle a maltraité Suzanne pendant des années, mais en plus, elle garde dans son portefeuille une photo souvenir. Faut être tordu, hein? Il faut être sacrément tordu. Et voilà la tordue en garde à vue. Menteuse, avec ça.
Oh ben je m'en suis occupé comme une fille de sa mère. Par charité. Uniquement par charité.
Et mon cul, c'est du poulet.
Je préfère tout de même vous prévenir. J'ai des relations. Un ministre. Monsieur Jack Lang, vous le connaissez?
Et de un, on ne voit pas très bien en quoi ça pourrait arranger ses affaires. Et de deux, c'est bidon, c'est une mytho. Elle ne connaît pas Jack Lang. Pendant ce temps-là, les gendarmes fouillent les papiers, les tonnes de papiers qu'ils ont retrouvés chez elle. C'est une mine d'or. Notamment, ils trouvent des attestations de dons de tableaux signés Suzanne. Et un testament paraffé d'une main tremblante. Joël Pennel est immédiatement inculpé de séquestration, faux en écriture et vol. Et maintenant, si on s'intéressait à l'avocat Maître Boissonnet, quel a été son rôle dans tout ça? Il est placé en garde à vue dans la foulée.
Vous savez, moi, dans cette affaire, j'ai juste voulu aider Madame de Canson, qui était une dame fort sympathique. Croyez bien que j'en ai tiré aucun avantage. Je n'ai fait cela que par charité, par charité chrétienne.
Décidément, la charité chrétienne a bon dos. Il va falloir que ces gens relisent leurs évangiles. D'autant que les gendarmes viennent de trouver chez un marchand suisse deux flambeaux en argent massif qui appartenaient à Suzanne de Canson et qu'il a vendu à son profit. Le fourbe, lui aussi.
Ah mais ça, c'était un cadeau de Madame de Canson.
Mais quel toupet, quel salaud. Le voilà inculpé lui aussi. Bon, ben, a priori, on a toute l'histoire. L'histoire d'un duo de margoulins qui abuse de la naïveté d'une vieille femme, qui la séquestre pour siphonner sa fortune. Sauf qu'il manque encore des tableaux, des Watteau, des Quentin-Latour et un Rembrandt. C'est pas facile à fourguer, tout ça. Le juge se dit alors que le duo avait forcément un complice. Forcément. Et c'est la secrétaire de Joël Pennel qui lâche le morceau. Pas mécontente, puisque l'autre ne l'a jamais payé et jamais déclaré. Et le nom de cet intermédiaire, c'est une bombe. C'est une bombe nucléaire.
Je vais vous dire la vérité. Celui qui les a aidés, c'est l'avocat Paul Lombard.
Paul Lombard? Le renard argenté de Marseille, comme on le surnomme à cause de ses cheveux longs, blancs et soyeux? l'un des hommes les plus influents des bords de la Méditerranée, grand mamamouchi de sa loge maçonnique, de gauche évidemment, habitué des gros dossiers, c'est lui qui a réglé la succession Picasso par exemple. Il a aussi été longtemps l'avocat de Gaston Defer, maire de Marseille et ministre de l'Intérieur de Mitterrand. Le président l'a élevé il y a quelques jours au rang d'officier de la Légion d'honneur. On murmure qu'il pourrait entrer à l'Académie française et pourquoi pas être nommé garde des Sceaux. Et pourtant, d'après ce que dit la secrétaire de Madame Penel, c'est lui qui a négocié la vente du fameux Murillo au musée du Louvre. Ça craint pour toi, Polo. Ça craint pour toi. En octobre 1988, le juge ordonne la perquisition du cabinet de Maître Lombard. Ce n'est pas banal, la perquisition d'un cabinet d'avocat. Ça remue du monde, hein. Le conseil de l'ordre est tout le toutime. Mais c'est très instructif.
Dites, regardez. Regardez ce que j'ai trouvé.
Une note d'honoraire. Lombard a reçu 400 000 euros pour la vente du Murillo.
Et là, venez, venez. J'ai trouvé quelque chose de très intéressant.
Les notes d'hôtel de Joël Penel. C'est lui qui les a payées. Intéressant parce que ça peut contribuer à prouver la complicité. Et lui, qu'est-ce qu'il en dit? Il est entendu comme témoin, bien entendu. On ne va pas froisser un proche du président.
Que voulez-vous? J'ai agi de bonne foi et en avocat. Et je n'ai jamais douté du bon droit de Madame Penel. Comment voulez-vous que je sache?
Ouais. En l'absence de preuves formelles de sa complicité, allez savoir ce qui peut se passer. Sauf qu'en décembre 1988, le Canard enchaîné publie un article passionnant. Un article dont le titre est magnifique. L'insoutenable légèreté du maître. Et le Canard publie la preuve que Paul Lombard est complice. Un document écrit de la main de l'avocat qui détaille l'héritage. Eh oui, Polo, la roue est en train de tourner. Enfin, on voudrait le croire. Paul Lombard est mis en examen pour recel, complicité et usage de fonds en écriture privée. Il échappe à la prison, bien sûr. Le parquet s'y est opposé. Sans aucune consigne du ministère, bien entendu. À partir de là, l'affaire change de braquet. Il y a maintenant des cars régis de télévision alignés devant le palais de justice de Toulon. Parce que c'est pas fini. N'oubliez pas que le Louvre est dans la boucle. Le Louvre qui a acheté un tableau volé à une pauvre femme, le Murillo, pour la moitié de son prix. Le Louvre était-il au courant de l'origine du tableau? Eh ben oui, figurez-vous. Révélation du journaliste Edoui Plenel dans Le Monde. Monsieur Rosenberg, directeur des peintures anciennes au Louvre, a fermé les yeux sur l'origine douteuse du tableau dans l'espoir de réaliser une bonne affaire au profit du patrimoine national. Et on a retrouvé une lettre très compromettante de ce monsieur Rosenberg dans les papiers de Joël Penel. Lettre dans laquelle il propose à madame de Canson de lui acheter son Murillo. Donc, quelque temps plus tard, quand il achète le même tableau à l'héritière d'une Madame Chapuis, il sait bien que le tableau n'était pas à elle. Et donc le voilà mis en examen lui aussi, pour recel. Vous noterez au passage que le petit juge Bernard est assez gonflé de s'attaquer à tout ce beau monde. Ah ! Il vient d'avoir une promotion. Quel miracle ! Il est nommé vice-président du tribunal de grande instance de Lille. Hein ? Il doit partir tout de suite. Quel dommage pour l'enquête. C'est pas de chance, hein ? Cela dit, en privé, il ne cache pas son soulagement.
Je n'en peux plus des pressions du procureur, et derrière lui du ministre, et du barreau qui joue les offusqués parce que j'ai inculpé Lombard. Je n'en pouvais plus. C'était intenable, intenable.
Heureusement, il n'y a pas toujours de la chance pour la canaille, puisque 5 jours avant sa mutation à Lille, Joël Penel passe aux aveux. Oui, elle a bien dépouillé Suzanne de Canson. Et oui, le testament est un faux.
Je vais vous dire la vérité.
puisque maintenant je n'ai plus rien à perdre. C'est Maître Lombard qui a organisé tout ça. C'est sur ses conseils que j'ai agi.
Si ça se trouve, alors, le dossier ne va pas être enterré. Si ça se trouve. Et donc, le juge Bernard prend son poste à Lille. Et il est remplacé par le doyen des magistrats instructeurs de Toulon. Un doyen, c'est plus rond qu'un jeune juge. Un doyen, c'est plus diplomate, ça. Ça a de l'expérience. Un doyen, ça digère mieux les couleurs. Et un doyen, si ça se trouve, ça siège dans la même loge maçonnique que Maître Lombard. Alors quand il clôt son dossier, le doyen décide de ne retenir que ce qu'il peut prouver. Et il est très sélectif. Il considère qu'il ne peut prouver que la séquestration et la captation d'héritage de la part de Joël Pénel et la complicité de Maître Boissonnet. Mais pour Maître Lombard et pour Rosenberg du Louvre, c'est très embêtant. Il n'a rien. Enfin, il n'a pas assez. C'est ballot, hein? Pardon de vous avoir dérangé, messieurs. Quand s'ouvre le procès, en octobre 1991, devant les assises de Draguignan, il n'y a donc que Joël Pénel et son ami l'avocat Boissonnet dans le box des accusés. Madame Pénel s'était choisi un avocat de renom pour la défendre, Maître Jacques Vergès, qui se réjouissait d'affronter Lombard. Mais comme l'autre a été blanchi, ça l'amuse moins, Vergès le cabotin. Alors il s'est retiré. Et à la fin, Joël Pénel est condamné à 13 ans de prison, et Maître Boissonnet à 4 ans, dont un avec sursis. Un jour, si ça n'est pas déjà fait, allez voir le gentilhomme sévillant de Murillo. Il est exposé au Louvre. À la fin de cette histoire, on notera tout de même que Paul Lombard n'a pas été garde des Sceaux. Ce fut pour lui le seul inconvénient. Il reste un point, vous l'aurez noté, qui n'a pas été éclairci. Dans quelles conditions est morte Suzanne de Canson? A-t-elle été assassinée? Dommage, elle a été incinérée. Pas de cadavre, pas d'enquête. Comme dit Maître Spinner, l'avocat de la famille de Suzanne, la justice et la morale sont deux choses différentes. Maître Vincenzini, vous étiez aux côtés de Maître Spinner dans la défense des intérêts de la partie civile, c'est-à-dire de la famille de Suzanne, sa sœur aînée, son mari et leur fils. Ma première question, Maître, va permettre sans doute de purger une question qui peut-être pourrait nous opposer. Est-ce qu'à votre sens, au cours de ce procès, tous les acteurs de cette escroquerie étaient sur le banc des accusés?
Non, assurément non. Vous savez, il y a la vérité et puis il y a la vérité judiciaire. La vérité judiciaire, elle est parfois assez loin de la vérité tout court. Une enquête obéit à un certain nombre de règles et quand il n'y a pas de charge suffisante permettant de faire juger les personnes que l'on soupçonne, eh bien elles ne sont pas jugées. Donc la vérité judiciaire aujourd'hui, c'est qu'il y avait deux personnes sur les bancs des accusés qui ont été condamnées, Joël Pénel et son avocat de l'époque.
Il n'y avait pas d'éléments qui permettaient de renvoyer Maître Lombard devant le tribunal.
Il y avait un certain nombre d'éléments qui ont pu, au début de l'affaire, jeter le trouble. L'un des éléments qui a évidemment... choqué, était que lors de la perquisition à son cabinet, le juge a saisi le dossier que Paul Lombard avait à son cabinet, dossier relatif à Joël Pénel.
Il a touché 400 000
euros, hein. C'est ce qu'on découvre à ce moment-là.
400 000 francs, oui. Mais il faut savoir que ce dossier était traité également par une collaboratrice de Paul Lombard, et le juge a saisi également le dossier de la collaboratrice, et quand on comparait les deux dossiers, on s'apercevait que le dossier saisi au cabinet de Paul Lombard avait été en quelque sorte expurgé d'un certain nombre de pièces qui, elles, restaient au dossier de son ex-collaboratrice. Donc évidemment, ceci, quand on fait disparaître des pièces, on peut évidemment penser que c'est parce qu'elles sont accablantes ou qu'elles peuvent constituer la preuve de la commission d'une infraction. Donc, si vous voulez, ce premier élément était un élément extrêmement troublant qui pouvait caractériser, laisser supposer une implication plus étroite de Paul Lombard dans le dossier.
Mais est-ce que, parlons le plus sincèrement possible, Paul Lombard est mort aujourd'hui il y a un certain temps, est-ce que vous pouvez imaginer que la puissance politique de Paul Lombard lui ait épargné ce procès ?
Vous savez, c'était une autre époque. Ce qui est sûr, c'est que le juge Bernard n'était pas sensible aux pressions. Mais comme vous l'avez rappelé, il a été nommé à Lille et il a été remplacé par
le doyen.
Par le doyen, tout à fait. Et vous savez, ces choses-là se font de manière subtile, hein. Et puis les avocats de la partie civile ne sont pas nécessairement dans le secret des contacts qui peuvent exister. Je vais vous dire très sincèrement. Vous savez, c'est une affaire très complexe. Et bien évidemment, quand une institution comme Paul Lombard, qui était ce qu'il y avait de mieux comme avocat en France à l'époque...
Oui, il y avait Badinter, Lombard, peut-être Vergès, si on considérait qu'il était...
Voilà, Vergès, voilà, absolument.
C'était un monstre absolu du barreau.
Tout à fait. Vous savez, cette personnalité forte, influente... pouvait effectivement faire reculer certains, pouvait au contraire exciter des jalousies. Ce qui est sûr, c'est que c'était un homme très occupé. Et la seule chose que je peux rapporter ici, c'est la façon dont il a été défendu. En fait, on n'a jamais pu établir qu'il était l'auteur du montage de la fausse succession. Et à partir de là, évidemment, les charges s'effondraient. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut exclure vraiment, de manière raisonnable et très objective, il n'a pas connu les conditions dans lesquelles Suzanne de Canson était traitée et finalement décédée. En revanche, il se trouve au cœur de la vente du tableau au Louvre, et de ce point de vue-là, il n'a jamais été établi qu'il avait été l'artisan de la fausse succession Chapuis. Il semblerait que ce soit plutôt le notaire Genevois qui ait imaginé ce stratagème.
Et le directeur du musée du Louvre, alors, Monsieur Rosenberg, a fait des peintures anciennes au musée du Louvre. Il sait, lui, que ce tableau a une origine douteuse, puisque il a déjà eu de ses nouvelles et qu'il a failli l'acheter par un autre moyen.
Alors, c'est même plus que ça. Le Louvre connaît ce tableau. Le Louvre connaît ce tableau et connaît son propriétaire. Et quand il est en vente chez Christie's, dans le catalogue de la vente, une vente publique, que le Louvre, évidemment, se procure, comme il se procure les catalogues de toutes les ventes dans le monde entier, pour le cas où il y aurait une acquisition à faire. Tous les musées du monde font ça. L'origine de propriété du tableau, c'est Cansou, C-A-N-S-O-U.
Une coquille malencontreuse.
Une coquille malencontreuse, comme vous dites. Quelques années avant, 3 ou 4 ans avant, le Louvre avait écrit à Suzanne de Canson, justement pour lui proposer, une fois encore, de lui racheter ce tableau. Et elle n'avait jamais répondu. Et là aussi, l'attitude du Louvre avait été pour le moins suspecte, parce que le juge avait commencé son enquête par une perquisition au Louvre. Et alors, je me souviens, parce qu'il nous l'avait raconté, qu'on l'avait fait attendre longtemps.
Oui, j'ai raconté ça. Oui.
Et donc, on lui donne un dossier, et dans ce dossier, évidemment, il manque un élément essentiel que vous avez rappelé, une lettre. Et cette lettre, en réalité, Nous avions l'enveloppe de la lettre, nous avions les documents, la sœur Jeanne Deschamps avait recueilli les quelques papiers de Suzanne de Canson qui lui restaient après son décès, et nous avions trouvé une enveloppe. Et le Monde, sous la plume d'Edouard Plenel, si mes souvenirs sont bons, a publié l'information, et miraculeusement, 48 heures plus tard, la lettre est arrivée au dossier du juge d'instruction, envoyé par le Louvre, mais ils ont dit, oui, mais simplement, comme elle ne nous a jamais répondu, nous n'étions pas sûrs, nous n'avions aucune certitude qu'elle était bien toujours la propriétaire du tableau. Donc voilà, très schématiquement, c'est un peu plus compliqué. Oui. Comment, si j'ose dire, le Louvre s'en est tiré. Il y a un autre élément, si vous voulez, qui peut être intéressant. C'est qu'il y avait eu un signalement des douanes, suivant lequel une information était parvenue aux douanes, suivant laquelle des tableaux français étaient passés en Suisse clandestinement. Et l'instruction n'a jamais pu établir que les douanes avaient averti le Louvre de ce que des tableaux passaient par illégalement en Suisse.
Alors parlons d'abord de Joëlle Penel. Quel genre de femme est-ce que c'est ? Et est-ce qu'au fond, à votre avis, elle ne se met en couple, mais ont-elles jamais d'ailleurs été en couple, avec Madame de Canson, uniquement pour lui siphonner son héritage?
Alors c'est une femme qui n'est pas banale. Hein. C'était une femme qui n'était pas banale. Je crois que c'était d'abord une mythomane. Elle s'inventait des histoires, elle s'inventait, vous l'avez rappelé, des particules. Il y avait deux Penel, il y avait deux Bonnemains, du nom de sa grand-mère qui s'appelait Bonnemain, mais elle se faisait appeler Madame de Bonnemain, de sa véritable grand-mère et non pas de Madame Chapuis, bien sûr. Elle se vantait d'avoir été le modèle du peintre Balthus, et donc elle avait manifestement une conception de la réalité qui était probablement assez éloignée de ce qu'elle était en vérité.
Donc est-ce qu'elle rencontre Suzanne de Canson et tombe amoureuse d'elle uniquement pour lui piquer son argent?
On ne peut pas l'exclure. Si vous voulez, à part ce caractère, n'est-ce pas, cette mythomanie, je crois qu'on pouvait dire d'elle, on a pu dire d'elle que c'était une aventurière. Elle a eu une vie un peu mouvementée, vous l'avez rappelé. Et est-ce qu'il y a eu, comme disent nos amis anglo-saxons, une affaire entre elles? Ça, il n'y a aucun élément au dossier qui permette de le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, Suzanne de Canson avait un penchant pour les femmes. Elle a vécu, en fait, en réalité, toute sa vie avec Laurence Paul, que vous avez cité dans votre récit. Probablement, ont-elles noué une relation, alors affective ou pas? Ça, vraiment, le dossier ne le dit pas, ne permet pas. Il n'y a aucun témoignage en ce sens. Il n'y a aucun témoignage contraire, bien évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que Suzanne de Canson était sous emprise. Et la fin de sa vie, telle qu'elle a été relatée de manière détaillée, précise, circonstanciée par trois témoins qui sont venus témoigner aux assises, au procès aux assises, est une fin de vie atroce qui me paraît exclure toute espèce d'affectivité entre les deux femmes. Je pense qu'il n'est pas absurde de considérer que Penel, effectivement, a vu là le moyen de dépouiller Suzanne de Canson, probablement.
Ouais. Alors Boissonnet, lui, du coup, c'est quoi? C'est un opportuniste ou au fond, c'est l'instigateur de l'opération autour du Murillo?
C'est très curieux. On n'a jamais établi qui était l'inventeur du montage. Hein. Je tiens à le rappeler et à y insister. Et les conversations qu'on a pu avoir avec Francis Piner, avec les clients, nous donneraient plutôt à penser que c'était le notaire suisse. Mais ça n'est pas certain. Mais est-ce que Boissonnet a pu être le concepteur? C'est tout à fait possible. Ce qui est sûr, c'est que quand les gendarmes sont venus perquisitionner chez Joëlle Penel, ils ont trouvé des dizaines de documents manuscrits avec des fausses signatures, des documents contradictoires entre eux, faisant de Joëlle Penel l'héritière de Suzanne de Canson, des faux testaments, etc., etc., des donations, bref. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que Suzanne de Canson avait une confiance aveugle en Robert Boissonnet. Ils avaient d'ailleurs un lien assez éloigné, mais un lien de parenté. Et il y a des témoignages terribles, notamment un témoignage auquel je pense, dont je me souviens, parce que ce sont des choses qui vous marquent. Quand Suzanne de Canson, devant le témoin, a téléphoné un jour à Robert Boissonnet, ou du moins le témoin a appelé Robert Boissonnet et l'a passé à Suzanne de Canson, Suzanne de Canson avait une attitude de soumission. On avait l'impression qu'elle était sous emprise, sous l'emprise de Robert Boissonnet. Alors c'est difficile de lui attribuer une paternité dans tout ce montage, mais son rôle, et ça c'est la vérité judiciaire, a été jugé suffisamment important pour qu'il soit condamné, effectivement.
Est-ce qu'à un moment donné se pose la question qu'on se pose à la fin de cette histoire, est-ce que Suzanne de Canson n'aurait pas été assassinée ?
Nous nous la sommes posée immédiatement. Malheureusement, l'incinération n'a pas permis et ne permettra pas, hein, on ne peut rien tirer des cendres, d'établir qu'il y a eu un assassinat. En revanche, ce qui a été établi, ce sont les mauvais traitements, la séquestration, la privation de nourriture et les conditions terribles, horribles, qui ont été relatées par les témoins, donc de la fin de sa vie. Mais assassinée, non, la vérité judiciaire, ce n'est pas qu'elle a été assassinée.
C'est qu'elle a été maltraitée.
Elle a été maltraitée, séquestrée. Séquestrée et maltraitée, mal nourrie, sous-alimentée, et elle a subi un certain nombre de mauvais traitements, notamment de lavage à l'eau de Javel, je ne sais pas si vous imaginez, oui, pour une personne âgée.
Enfin, et au mire.
Et au mire. Et au mire, absolument, oui, tout à fait.
Merci infiniment, Maître Vicencini, d'avoir
merci
accepté de débriefer cette histoire tant d'années après.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.